Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Avec Corinne Morel-Darleux, bonjour.
Bonjour.
Nouveau compte-rendu de mandat radiophonique à la suite de la commission permanente du 15 février. On va le dire tout de suite, vous n'étiez pas. Alors je voudrais qu'on commence par ça. Comment on peut ne pas être dans une commission permanente mais quand même savoir ce qui s'y passe ?
Alors en fait, j'y étais pas parce que cette commission permanente, c'est pas comme les assemblées plénières où il y a tous les élus. Commission permanente, c'est un nombre d'élus en fonction des tailles de groupe. Donc nous, on a 3 élus qui y siègent et on organise une présence tournante, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes que depuis le début du mandat, de manière à ce que effectivement l'ensemble des élus du groupe puissent y participer à un moment donné dans le mandat. Et en fait, la raison pour laquelle l'ensemble des élus n'y siègent pas, c'est parce que, en fait, dans ces commissions permanentes, on est plutôt sur la déclinaison et la mise en œuvre des grands axes politiques qui sont décidés, justement, en assemblée plénière. Donc ça, c'est sur les questions des présences. Par contre, évidemment, tout le travail qui est fait en amont est fait par l'ensemble des élus du groupe, puisqu'on est sur le même principe que pour les plénières, c'est-à-dire que les commissions thématiques se réunissent toutes avant cette commission permanente et étudie les dossiers à cette occasion. Donc j'ai étudié, comme d'habitude, mes dossiers et ensuite c'est mes camarades du groupe qui les ont portés lors de cette commission permanente.
Et ces déclinaisons, du coup, ne sont pas particulièrement votées. C'est le moment où vous allez plutôt essayer d'amender, de faire passer quelque chose ?
Alors non, en commission permanente, la spécificité de cette commission permanente, c'est que d'abord, elle est à huis clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journaliste présent, ce n'est pas diffusé sur le site de la région, donc ce n'est pas public. Et l'autre caractéristique, je ne sais pas si c'est lié, c'est que les choses vont extrêmement vite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de débat, il n'y a pas de prise de parole de prévu de la part des groupes. On peut le faire, mais vraiment à la marge et de manière très rapide. Pour vous donner un ordre d'idée, cette commission permanente, elle s'est tenue en 50 minutes chrono à Clermont-Ferrand.
C'est mieux que les 6 heures de d'habitude, quoi. 6-8.
Voilà, donc autant vous dire que vu les centaines de rapports qui sont étudiés, tout cela va extrêmement vite. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit tous nos votes, bien sûr, en amont. Et sur certains sujets, on décide en groupe que sur ces sujets-là, on va essayer de prendre la parole. C'est généralement des sujets sur lesquels on vote contre et qui nous paraissent particulièrement importants et sur lesquels on essaye d'expliquer justement pourquoi on ne les vote pas.
Ah, et là, on a 2 minutes, même pas pour...
Oui, même pas. C'est-à-dire que là, il n'y a pas un temps d'intervention officiel, chronométré, etc. Donc il s'agit vraiment de prendre la parole le plus rapidement possible en essayant de se glisser dans les interstices avant que le président de séance ne passe au rapport suivant. Donc ça demande un petit peu d'agilité.
Alors vous avez quand même parlé d'un certain nombre de sujets, notamment ceux qui ont retenu là votre attention, Corinne Morel-Darleux, sont effectivement des sujets sur lesquels vous avez un peu pris la parole pour dire que ce n'était pas terrible. Et notamment... Pourtant, ça m'a tout de suite tilté quelque chose de local. La création d'une société pour des véhicules hydrogène, on a beaucoup entendu parler ici en Vallée de Quin. Ah, ça y est, on s'y met alors à la région ?
Alors oui, effectivement. Donc là, le dossier qui nous était proposé, c'était une prise de participation de la part de la région au capital d'une société, qui est une société d'économie privée, hein, une SAS, qui s'appelle Impulsion. Et donc là, le dossier consistait à mettre plus de 7 millions d'euros d'argent régional au capital de cette entreprise qui sera co-créée avec 2 grandes entreprises que l'on connaît bien, Engie, donc anciennement EDF, et Michelin, qui est un de nos champions locaux au niveau de la région. Alors le principe, c'est effectivement de favoriser la production d'hydrogène, ce qui est sur le papier intéressant, avec toutefois des choses qui ont attiré notre attention. D'abord, la première version du texte parlait de production d'hydrogène principalement à partir d'énergies renouvelables. Il faut savoir que pour produire de l'hydrogène, il faut de l'énergie et que généralement, ce sont effectivement des énergies fossiles qu'on utilise. Donc les énergies fossiles dont on sait qu'elles sont à l'origine de la plupart des émissions de gaz à effet de serre et donc du dérèglement climatique.
Pierre, enfin, utiliser du pétrole pour faire de l'hydrogène plus vert, c'est un peu idiot.
Voilà, donc il y a effectivement possibilité de faire à partir d'énergies renouvelables, mais pour l'instant c'est extrêmement limité. On compte sur beaucoup de technologies qui aujourd'hui ne sont pas au point. Donc on a fait un premier courrier par le biais de l'élu de notre groupe, Fabienne Grébert, pour alerter sur ce point-là. Suite à quoi il nous a été répondu que le principalement allait être ôté et que donc cet hydrogène serait effectivement produit à partir d'énergie renouvelable. Mais sans plus de précision sur les techniques qui seraient utilisées, qui à notre connaissance aujourd'hui n'existent pas, en tout cas pas à la hauteur de l'ambition de cette nouvelle entreprise Impulsion. Et puis surtout, ce qui nous a gênés dans ce dossier, c'est l'idée que la région mette une somme qui est quand même conséquente de 7,2 millions pour beaucoup d'associations et de petits acteurs locaux, de PME, d'artisans. Ils savent ce que représente cette somme et de mettre cet argent pour aider deux grosses entreprises qui se portent plutôt correctement pour faire de l'économie privée et pour notamment des recherches dont les brevets, s'il doit y avoir des brevets, seront des brevets privés. Donc c'est une utilisation de l'argent public qui nous questionne et qui nous questionne d'autant plus que si on prend par exemple le cas de Michelin, c'est une entreprise qui a déjà perçu 70 millions d'euros au titre du CICE, ce mécanisme de crédit d'impôt mis en place par le gouvernement sans contrepartie, sans conditions ni environnementales ni de création d'emplois. Et que de fait, si on regarde du côté des emplois, Michelin, qui est une société qui se porte bien, hein, dont les profits sont en augmentation, qui a versé l'année dernière 584 millions d'euros de dividendes à ses actionnaires, eh bien, cette entreprise, aujourd'hui, sur notre territoire, sur notre région, licencie, délocalise, ne renouvelle pas des postes. Ce qui fait que, quand même, entre 1982 et 2016, on est passé de 28 000 personnes qui étaient employées sur le site de Clermont-Ferrand à seulement 11 000. Donc, une réduction de plus de moitié. Donc, est-ce que c'est vraiment le rôle de la région de donner plusieurs millions d'euros d'argent public pour aider des entreprises privées qui réalisent des profits et qui licencient sur le territoire de la région, avec en plus des technologies qui ne sont pas du tout avérées pour faire les choses correctement d'un point de vue environnemental et climatique. Pour nous, tout ça sont autant de raisons, effectivement, d'avoir voté contre ce dossier. On regrette un peu de ne pas avoir été suivi par tous les groupes d'opposition, parce que par exemple le Parti Socialiste a voté en faveur de ce dossier. C'est vrai que c'est compliqué dans notre région parfois d'aller à l'encontre d'un mastodonte comme Michelin, qui est une entreprise réputée, importante, historique de la région, mais pour nous justement le devoir des politiques est de ne pas prendre en compte des histoires historiques ou de relationnels ou des choses comme ça, mais vraiment de regarder l'utilisation de l'argent public, et il nous semble que ces 7,2 millions auraient été mieux utilisés pour le bénéfice réel de l'ensemble du territoire et des habitants sur d'autres projets.
Pour comprendre un peu mieux, parce que j'ai entendu deux choses qui se font presque opposition dans ce que vous avez dit, 7,2 millions vont être donnés à la création de cette nouvelle société pour la production d'hydrogène, et où la région rentre dans le capital de la création de cette nouvelle société.
Alors en fait, c'est effectivement une entrée au capital à hauteur de 7,2 millions. Voilà. Donc c'est une participation au capital.
Oui, donc il y aura quand même, elle pourrait avoir un poste dans un conseil d'administration.
Ah oui, bien sûr.
Pour pouvoir décider quelque chose, voilà.
Oui, bien sûr, il y aura effectivement probablement une représentation dans les instances dirigeantes de cette SAS.
Bon, alors ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que Engie, dont on a assez peu parlé, c'est aussi une entreprise dans laquelle il y a aussi l'État qui participe à son capital, même de manière assez haute. C'est bizarre comme mix, quoi.
Oui, alors c'est des choses qui se font de plus en plus dans le domaine économique, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de montages comme ça qu'on dit mixtes. C'est le cas, par exemple, des sociétés d'économie mixte, mais c'est aussi le cas des partenariats publics-privés, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a effectivement des imbrications entre des fonds publics et des fonds privés. Alors, selon les cas, nous, on n'a pas une opposition de principe, c'est-à-dire qu'il y a des cas où il peut y avoir effectivement des collaborations entre le public et le privé qui soient vertueuses et intéressantes.
Non, mais il y a des exemples, franchement.
J'en ai pas là comme ça en tête.
Parce que là,
tête.
On a tout de suite toujours l'impression que c'est une grosse arnaque montée par des entreprises qui se gavent avec quelques élus qui les arrosent, quoi.
Bah, c'est-à-dire que si on prend par exemple un cas un peu à l'opposé inverse, le fait par exemple que la région aide régulièrement des PME, des artisans, des agriculteurs, c'est une manière de financer l'économie privée d'une certaine manière. Et ça, par exemple, ça ne nous pose pas de problème. Alors après, il faut regarder évidemment la question de l'utilité sociale de la production, des conditions environnementales dans lesquelles c'est produit, etc. Mais en tout cas, sur le principe, ce n'est pas forcément gênant. D'autant plus qu'aujourd'hui, la région a la compétence de développement économique. Donc, il est assez naturel qu'elle intervienne dans le domaine économique. Par contre, la manière dont c'est fait, le type de projet et les partenaires, là, pour le coup, c'est là où c'est intéressant de regarder. Et une fois de plus, c'est la question de l'affectation de ces fonds publics. Est-ce qu'en faisant ce partenariat, en rentrant au capital de cette société, avec Engie et Michelin, est-ce que la région est vraiment dans son rôle de développement économique de l'ensemble du territoire ? Est-ce qu'elle est vraiment en train de favoriser un projet qui va améliorer la qualité de vie des habitants ? Voilà, nous, il nous semble qu'il y a beaucoup de subventions qui ont été retirées à des petits festivals, à des projets locaux qui permettent de dynamiser des territoires ruraux, des zones isolées où il n'y a justement pas de grosses infrastructures, pas de métropole, etc. Et que toutes ces subventions qui ont été arrêtées, bah avec ces 7,2 millions, un certain nombre en réalité pourrait avoir été honoré. Donc quand on nous dit systématiquement qu'il faut faire des économies et qu'il y a une pénurie d'argent public, bah régulièrement on voit que ce n'est pas le cas en réalité. C'est-à-dire que de l'argent il y en a, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins, les dotations de l'État sont de moins en moins importantes, donc on est nous aussi touchés au niveau de la région par ces politiques d'austérité, mais néanmoins de l'argent il y en a, et c'est tout le rôle justement des élus que de prioriser cet argent et de savoir d'aller le flécher là où il y en a le plus besoin. Une fois de plus, le questionnement est de savoir si c'est dans cette société Impulsion qu'il y en a le plus besoin, et nous, notre réponse très clairement est non.
Une petite victoire pour vous, allez, avant de repartir dans des choses plus sombres. Le parc naturel régional des Sources et Gorges de l'Allier, qui donc avait été contraint, on en avait parlé hein, au tout début du mandat Wauquiez, votre recours a porté ses fruits.
Oui, tout à fait. Alors, pour faire un tout petit peu d'historique, hein, c'est un projet de parc naturel régional qui existe depuis des années. On sait que c'est des processus qui prennent beaucoup de temps, puisque c'est des processus dans lesquels il y a énormément de concertation, et puis ça concerne des territoires assez vastes.
C'était 18 ans déjà. Hein,
voilà. Alors, du coup, il y a eu plein d'étapes jusqu'à aujourd'hui, et des étapes donc de concertation, de co-élaboration de la charte, etc., du projet de territoire, qui ont toutes été passées avec succès. C'est-à-dire que concrètement, quand Laurent Wauquiez est arrivé à la présidence de la région, il y avait eu un vote favorable de la région Auvergne, il y avait eu un vote favorable de 65 communes, il y avait eu un vote favorable des deux départements sur lesquels devait s'implanter ce parc naturel régional. Et Laurent Wauquiez arrive et déclare tout cela nul et non avenu, raye le projet d'un trait de plume et fait voter une délibération qui annule purement et simplement le projet de parc naturel régional. Donc suite à ça, effectivement, nous avons, avec notre groupe RCES, porté un recours devant le tribunal administratif. On a contesté du coup cette annulation. Et le tribunal de Lyon, là, fin décembre, début janvier, nous a donné raison et a donc annulé l'annulation du projet de parc naturel régional. Pour l'instant, on en est là. Suite à ça, une pétition a été lancée par des habitants, des élus, des maires de ce territoire pour du coup demander à ce que la région reprenne le travail et puisse enfin valider ce projet de parc naturel régional qui, pour tous ces territoires, hein, représente vraiment une opportunité de développement, d'aménagement du territoire. C'est évidemment un plus pour l'activité touristique. Et puis, ça permet surtout que toutes ces communes se parlent et discutent ensemble de ce qu'elles veulent faire, justement, de ces bassins de vie. Donc, cette pétition, elle a recueilli environ 1200 signatures, ce qui est assez important pour un territoire comme celui-là. Et puis, il semblerait qu'il y ait eu un certain nombre de pressions. On sait que des élus de la majorité, notamment de l'exécutif de Laurent Wauquiez, ont passé quelques coups de fil. Et donc, visiblement, il y a eu un certain nombre de pressions. Certains élus, du coup, ont été plus ou moins contraints de retirer leur signature. Et on a la crainte d'assister en fait de nouveau à ce qu'on a pu observer au moment où Laurent Wauquiez a annulé ce projet initialement, c'est-à-dire que sa démarche a consisté à aller voir un par un les maires, les communes, les intercos pour leur proposer des subventions directes en lieu et place du parc naturel régional. Ce qui est une manière... finalement, d'acheter...
Ça avait été fait, du coup, avant, déjà ?
Oui, ça a été fait entre-temps, en fait. C'est-à-dire que l'argument de Laurent Wauquiez et de la majorité était de dire « On n'a pas besoin d'un parc naturel régional qui est une usine à gaz, donc on va aller aider directement les communes qui le demandent sur leur projet, sans passer par cet outil de concertation, de mise en commun. » Un peu ce qui a été fait pour les anciens CDDRA, hein, qui ont été remplacés, et qui, du coup, là, pareil, ne mettent plus autour de la table les acteurs locaux. Mais, c'est des discussions... de la main à la main avec un élu référent issu de la majorité. Là, c'est exactement la même chose, sauf qu'on commence à avoir un peu de recul, puisque ça fait maintenant plusieurs mois, je crois que c'est un an et demi à peu près, que ce dispositif a été mis en place, et que de fait, voilà, il n'y a pas de projet de territoire, il n'y a pas de dynamique commune, et on n'a pas l'effet d'échelle quand on discute avec chaque commune de manière séparée. Il n'y a pas de dynamique d'ensemble, quoi.
On a un bel exemple quand même, nous, ici, dans le Vercors, parce que j'ai appris là qu'il y a une dizaine de nouvelles communes qui entrent dans le parc. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui ont envie d'y aller et que ça a un sens de se mettre ensemble. Quoi. C'est pas...
Bien sûr.
Voilà, des communes de plus en plus proches de Romans, d'ailleurs.
Tout à fait. Et on voit bien, hein, généralement, les parcs naturels régionaux, ils ne s'installent pas sur les métropoles, ils s'installent plutôt sur des territoires où il y a... toute une myriade de communes qui sont plus ou moins isolées, des acteurs qui sont loin les uns des autres. Et du coup, un parc naturel régional, c'est aussi un moyen de mettre tous ces gens autour de la table régulièrement, qui discutent ensemble. Ça crée des synergies, ça crée des dynamiques à l'échelle de bassins de vie, à l'échelle de bassins aussi environnementaux, parce qu'il y a aussi un souci généralement écologique très fort dans ces parcs naturels régionaux. Mais c'est aussi une manière de valoriser des productions, le pastoralisme, des productions agricoles, d'avoir des labels de qualité et de faire venir des touristes. Enfin, c'est toute une, enfin même d'un point de vue économique, généralement, effectivement, les gens qui rentrent dans ces parcs naturels régionaux n'ont pas à le regretter. Et d'ailleurs, ils n'en sortent pas et d'autres arrivent. Donc on voit bien que c'est plutôt des effets positifs. Mmh. Donc cette espèce d'entêtement de refuser ce parc naturel régional qui a été voulu, hein, je le rappelle, par la région Auvergne, 65 communes, 2 départements, ressemble un peu à un fait du prince. Et c'est là encore une fois de plus une conception quand même de la démocratie, de la participation, de la concertation et de la manière dont on peut faire vivre des territoires qui est assez inquiétante, en fait.
Bon, alors concrètement, puisque le tribunal a annulé, l'exécutif ne peut quand même pas re-annuler, ça paraîtrait complètement... C'est quoi la suite ?
La suite, pour l'instant, on ne la connaît pas. Malheureusement, ça peut aussi être un espèce de statu quo qui dure et du coup, pendant lequel rien ne se passe. Il y a une possibilité, qu'il y ait une action du côté du ministère. Et c'est une des choses qui est demandée par cette pétition, qui s'adresse à François de Rugy. Parce que, in fine, c'est le ministère, en dernier recours, qui peut effectivement créer ce parc naturel régional. On avait demandé, nous, au moment de l'arrivée de Laurent Wauquiez à la présidence, puisqu'on savait qu'il risquait de mettre à mal ce projet, on avait fait un courrier à Ségolène Royal pour lui demander, puisqu'il ne restait plus que sa signature, on lui avait demandé d'acter très rapidement du coup, ce parc avant qu'il soit remis en question par la région. On n'avait pas eu de réponse de la part de la ministre. Donc là, on espère que... Enfin, je ne sais pas si on espère, mais en tout cas, une des solutions serait que François de Rugy, effectivement, valide. Et aujourd'hui, grâce à notre recours et à la décision du tribunal de Lyon, François de Rugy peut effectivement signer les décrets qui valident la création de ce parc naturel régional.
Puis ils pourraient le faire, ils ne sont pas très amis avec Wauquiez. On passe à la montagne, parce que d'abord cette saison, et ensuite, parce que vous l'avez publié, ça, une étude assez particulière sur, sur les risques de sécheresse avérés, hein, vers lesquels on allait, si on continue sur le canon à eau. Le canon à eau, qu'est-ce que je dis ? Le canon à neige, bien sûr.
Qui est aussi effectivement un canon à eau et à énergie, d'ailleurs.
Ouais, et qui ne sert pas à repousser les manifestants, bien au contraire.
Alors, effectivement, on est sur un autre sujet. Donc, il y a une étude... qui par ailleurs est une étude très intéressante, hein, qui a été réalisée par plusieurs acteurs scientifiques, l'IRSTEA avec Météo France, qui sont basés notamment à Grenoble, le CNRS, et un cabinet de consultants qui s'appelle KPMG sur les aspects plutôt économiques de l'enneigement artificiel. Et donc cette étude, elle a été réalisée sur le département de l'Isère, à horizon 2050.
Commandé par qui ?
Alors, commandé par le département de l'Isère. Mmh. Donc, sur l'ensemble des 23 stations de ski de l'Isère, pour étudier un peu par rapport justement au réchauffement climatique, par rapport à la ressource en eau, si, et puis d'un point de vue économique, si c'était viable et souhaitable de continuer à augmenter la surface d'enneigement artificiel de ces stations. Alors, la première chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que le cadre de cette étude était très clairement défini, c'est-à-dire qu'il y avait un plafonnement chiffré de cette surface, c'est-à-dire que l'hypothèse de départ, c'est d'arriver à 42% des surfaces de pistes de ski enneigées artificiellement à horizon 2025, et après, on s'arrête. Donc ça, je le précise parce qu'aujourd'hui, à la région... on n'arrive pas à obtenir de la part de la région un plafond comme ça. C'est-à-dire jusqu'à quand on continue à financer des canons à neige, jusqu'à quel pourcentage, jusqu'à quelle date, jusqu'à quel budget. Là, par exemple, dans le cas de cette étude sur l'Isère, le budget il est de 47,7 millions pour le département, ce qui représente 165 millions d'investissement total. À charge du département, de la région et des stations. Donc on a un cadre qui est défini, ce que nous n'avons pas à la région. Deuxième constatation, cette étude ne porte que sur les départements de l'Isère. Sachant qu'à la région, évidemment, on parle l'ensemble des départements.
Ouais. Et on notamment, peut en jeter 3-4.
Voilà, et notamment d'un autre département qui est celui qui nous pose le plus de soucis, qui est la Haute-Savoie, qui a été l'objet d'une sécheresse très critique cette année, qui a duré jusqu'à début décembre, avec des restrictions, sur, y compris sur l'eau potable, qui a fortement inquiété, et à juste titre, les élus, les riverains, les habitants, et qui a effectivement posé la question de l'utilisation de l'eau pour les canons à neige. Alors, une fois ces précisions apportées, donc on a eu une présentation de cette étude en commission montagne. Donc c'était intéressant d'avoir effectivement un certain nombre de faits sur lesquels s'appuyer, même si malheureusement la totalité de l'étude aujourd'hui n'est pas disponible. Je crois qu'ils attendent des accords pour pouvoir la diffuser, mais du coup il y a des éléments qu'on n'a pas, mais il y en a quand même qu'on a. Sur notamment la question de l'eau. L'étude établit que pour ce qui est du département de l'Isère et avec ce cadre défini, l'enneigement artificiel à hauteur de 42% ne pose pas de problème, ne devrait pas poser de problème en tout cas immédiat sur la ressource en eau et donc ne devrait pas générer de conflit d'usage. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais une fois de plus, on ne parle là que du département de l'Isère. Par contre, sur la question de l'énergie, parce que tout ça demande beaucoup d'énergie, et ça demande notamment beaucoup d'énergie parce que l'eau, généralement, est acheminée et remontée sur une altitude de 1000 à 1500 mètres. Donc c'est des espèces d'énormes pompes qui remontent l'eau jusqu'aux stations. Donc ça, plus tout le reste, nécessite beaucoup d'énergie. Malheureusement, à notre connaissance, en tout cas dans ce qui nous a été présenté, le volet énergie n'a pas du tout été pris en compte. Or, on sait aujourd'hui que la question de l'énergie est aussi une question cruciale par rapport au dérèglement climatique, qu'il faudrait cesser d'utiliser aujourd'hui des ressources fossiles pour l'énergie, pour limiter le dérèglement climatique. Et donc, malheureusement, sur cet aspect, il n'y a pas un seul mot dans l'étude qui nous a été fournie.
Même la question, par exemple, des barrages, qui sont quand même nombreux sur le département de l'Isère ou de la production hydro, n'est pas pris en compte, par exemple, en imposant, je ne sais pas moi, aux stations d'avoir une conduite forcée sur l'eau qu'elles remonteront ou...
Alors effectivement, il n'y a aucun élément dans toutes les présentations qui ont été faites, parce que l'étude avait évidemment déjà été présentée au moment de sa sortie à la fin de l'année dernière. Moi, j'avais eu accès à un certain nombre de documents, mais pas l'étude complète, là encore. Et donc, dans tous ces documents et dans la présentation qui nous a été faite en commission, effectivement, il n'y a pas un seul mot sur l'énergie. Et ça a d'ailleurs été confirmé, effectivement, en séance. Donc ça, c'est d'abord un premier souci. Et puis, l'autre souci aussi qui a été pointé et que, sur lequel moi je suis revenue pendant cette commission, c'est la question économique. C'est-à-dire que concrètement, pour ce qui est des très grandes stations, l'étude conclut au fait qu'il n'y a pas de corrélation pour les très grandes stations entre le fait qu'il y ait de la neige et la fréquentation touristique. C'est-à-dire que concrètement, les gens vont de toute manière en vacances dans ces très grandes stations, neige ou pas neige. Il y a plein d'autres activités que le ski, c'est généralement des activités plutôt haut de gamme, on va dire. Il y a des spas, maintenant il y a plein de choses. Donc, il n'y a pas de corrélation. Donc, première question, est-ce que la région doit continuer à aider ces très grandes stations à s'équiper en neige artificielle, alors que ce n'est pas ça qui fait venir les touristes, qui est quand même toujours l'argument qui nous est opposé. Deuxième chose, pour ces très grandes stations, le volet économique qui a été réalisé par KPMG dit que c'est des stations qui ne devraient pas avoir trop de soucis à financer la part qui leur reste, une fois les subventions du département et de la région tombées, pour les canons à neige. Donc elles peuvent se le permettre, quoi. En gros, elles peuvent se le payer sans que ça les mette en situation de difficulté. En revanche, pour les petites et moyennes stations, qui sont les plus fragiles, qui sont les plus en danger justement par le manque de neige naturelle.
Les plus basses.
Voilà, et souvent les plus basses en termes d'altitude. Là, KPMG parle d'investissements qui représenteraient une année sur deux de chiffre d'affaires de ces stations, ce qui est absolument énorme, et dit, j'ouvre les guillemets, parle de choix stratégiques de priorisation des investissements qui devraient être faits par ces petites stations, qui devraient, j'ouvre à nouveau les guillemets, prendre en compte la performance économique de chaque station. Donc j'ai essayé d'en savoir plus en leur demandant ce que ça voulait dire exactement, sachant qu'on a eu des rapports de la Cour des comptes pointant le risque d'endettement de ces petites stations et du coup une grande fragilité financière. Donc là aussi, d'un point de vue économique, c'est pas forcément une bonne idée de créer un effet d'aubaine avec des subventions de la région qui ne prennent pas en compte l'ensemble des coûts et où donc, finalement, on incite les petites stations à s'équiper au risque de se surendetter. Et j'ai pas vraiment eu de réponse très claire. Gilles Chabert, donc le conseiller spécial à la neige et au ski de Laurent Wauquiez, a répondu que c'était à eux de voir et que ce n'était pas de la responsabilité de la région. Ce qui, me paraît, pour ma part, tout à fait contestable, puisqu'on crée un effet d'aubaine avec cette manne financière qui, tout d'un coup, tombe du ciel sans aucun critère, qui est accordé à toutes les stations qui le demandent, au risque effectivement de les pousser à s'équiper dans une vision un peu de court terme pour des canons qui risquent d'endetter les stations et de ne pas tourner tant que ça, puisque il faut de l'énergie, il faut de l'eau, il faut du froid, et que l'eau, l'énergie et le froid sont probablement les trois choses qui vont venir le plus à manquer à horizon 2050. Notamment à cause de ce fameux réchauffement climatique. Donc c'est vraiment deux gros angles morts. Et ce qui m'a beaucoup dérangée dans cette commission et ce qui m'a poussée à vouloir en parler aussi pendant cette émission, c'est que tout au long de la commission, cette étude a été présentée par Gilles Chabert, par Chantal Carlios, qui est vice-présidente à la montagne du département de l'Isère et qui est également membre des Républicains. Tous les deux ont présenté cette étude comme une validation des politiques publiques qu'ils mènent en faveur de l'enneigement artificiel, en passant sous silence tous les éléments qui n'allaient pas finalement dans leur sens. Et moi, ça m'a mise très mal à l'aise parce que je trouve que l'idée de faire appel aux scientifiques pour disposer d'études factuelles est une excellente idée. J'ai d'ailleurs suggéré que la région finance la réalisation d'études similaires sur les autres départements, pas seulement sur l'Isère, mais sur les autres départements. Je n'ai pas là non plus de réponse positive. Mais moi, j'ai envie de leur dire, OK, jouons le jeu pour sortir effectivement des débats idéologiques. Moi, je demande que ça. Demandons une étude, la même, sur l'ensemble des départements, mais en incluant aussi la question de l'énergie et en ayant accès à l'intégralité de l'étude. Donc, y compris le détail, station par station, du risque d'endettement, de la capacité d'autofinancement, de la situation économique des stations, etc. Et à partir de là, ayons un vrai débat qui n'occulte aucun des volets. Moi, je suis prête à entendre, par exemple, que ça ne pose pas de problème de conflit d'usage sur l'eau en Isère, et je m'en réjouis. Mais prenons l'ensemble et pas seulement les éléments qui nous arrangent. Voilà. J'ai trouvé que cette manipulation était particulièrement dérangeante par rapport à un travail effectué par des scientifiques au service de décisions éclairées de la part du politique.
Et pour ces petites stations, finalement, on ne sait pas si l'étude a poussé, enfin si l'étude a été poussée jusque-là, mais on sous-entendrait presque que ces petites stations devraient faire leur propre étude de marché à un moment donné en se disant, bon, est-ce que je fais des canons ou pas? Ou est-ce que je ferme de toute façon? Alors, on a l'impression d'être pris complètement dans un étau, parce que si elles ne mettent pas de canons, elles vont fermer relativement vite, ce qui est déjà le cas, on le voit ici par exemple dans le département de la Drôme. D'ailleurs, petite question annexe, quid des stations qui appartiennent déjà à des collectivités? Et ensuite, si elles font des canons, eh ben, elles vont fermer à 3 ans parce que leur étude de marché ne correspondra pas. C'est une espèce de truc un peu...
Mais c'est là en fait où cette question, elle est beaucoup plus complexe que est-ce qu'il faut des canons à neige ou pas.
Bah oui,
c'est-à-dire que la question mériterait vraiment un débat un petit peu plus élevé et un petit peu plus systémique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on sait qu'au final, un certain nombre de stations ne pourront plus dépendre uniquement de l'activité ski pour leur pérennité, et que donc, il faudrait dès aujourd'hui les aider à anticiper, à se diversifier, à proposer d'autres activités développement économique.
À se monter des spas plutôt que de se monter des canons, quoi.
Pas forcément, mais par exemple, moi je travaille beaucoup avec des guides de haute randonnée, avec des gardiens de refuge, il y a du pastoralisme, il y a plein de choses à développer en montagne, il n'y a pas que le ski, et heureusement. Et puis même d'un point de vue du ski, on le voit régulièrement, même quand les canons à neige fonctionnent. On voit des petites stations comme ça, dont les pistes ne sont que des petits rubans de neige artificielle sur quelques mètres de largeur, alors qu'à côté, on a le sol à nu. Et ça, ce n'est pas des éléments de fidélisation des skieurs. Les touristes qui viennent skier une année sur un ruban de neige comme ça ne reviennent pas l'année d'après. Et la clientèle haut de gamme, ne vient pas là où il y a des canons à neige. La clientèle haut de gamme, elle est par définition, parce qu'elle a les moyens, c'est une clientèle très mobile, qui va en Suisse, qui va en Autriche, qui va en Italie ou qui va dans les Alpes françaises, en fonction de là où la neige tombe. Donc elle n'a que faire d'avoir un ruban de quelques mètres de large de neige artificielle pour pouvoir skier dessus. Donc même d'un point de vue économique et d'attractivité touristique, il n'est pas du tout certain que ces canons à neige suffisent. Et puis la question de fond aussi qui mérite d'être posée, c'est est-ce qu'on a absolument besoin de cette activité? Est-ce qu'on ne peut pas inventer d'autres choses? Parce que là, la manière dont c'est fait, un peu en dépit du bon sens, je discutais avec un hydrologue justement suite à cette commission qui me disait finalement là, à horizon 2050, on risque de se retrouver avec des stations où on pourra créer de la neige artificielle en bas de piste, sur le front de neige, puisque c'est souvent là qu'il manque justement de la neige et donc là que sont implantés les canons. Mais par contre, on pourra donc rejoindre le front de neige à ski, prendre les remontées mécaniques et arriver en haut à des endroits où il n'y aura pas de neige. Voilà le genre de choses qu'on est en train de financer à coups de millions. Donc voilà, une fois de plus.
On pourra skier sur des vertes.
Voilà, et quand Chantal Carlioz, qui est donc vice-présidente à la montagne du département de l'Isère, mais qui est aussi maire de Villard-de-Lans, quand elle dit, j'ai noté hein, cette petite phrase, elle dit « c'est l'économie qui décide ». Ben non, justement, en fait. Ouais. Je crois que c'est là où on a une divergence de fond.
Quand bien même c'était l'économie qui déciderait, il faudrait aller au bout de la démarche, mais donc bien se rendre compte qu'elles vont ne plus marcher, même si on a fait un peu de neige.
Exactement, et qu'en fait, là, avec cette espèce de mantra de dire c'est l'économie qui décide, en réalité, on est en train de se mettre dans une situation absurde où, au nom de l'économie, eh ben, finalement, on ne prépare pas l'économie de demain de ces stations et on est peut-être en train, au contraire, de les précipiter vers la fermeture.
En tout cas, elles perdent du temps. Hein.
Et on perd du coup tous du temps parce qu'on continue à mettre en place des machines qui sont consommatrices en énergie, en eau. Et que, évidemment, tout ça risque d'aggraver encore le manque de neige en accélérant le dérèglement climatique qui, franchement, en ce moment, n'a pas besoin de ça.
Alors, on y va avec encore des machines qui consomment et polluent et tout ça et tout ça. Il y a des projets sur les aéroports qui sont par là, dans notre région, notamment pour essayer de se substituer de plus en plus à Saint-Exupéry, à Lyon, donc Grenoble. Je vous l'apprenais tout à l'heure, mais l'aéroport de Chabeuil-Valence aussi est en pleine restructuration à grands coups de millions d'argent public. Vous vouliez en parler aussi, et tout ça pour le ski en plus encore.
Oui, c'est ça, parce que en fait, ça me paraît tellement aberrant aujourd'hui, en 2019, avec tout ce qui se passe sur la question du climat, sur la prise de conscience des jeunes, des marches pour le climat, la démission de Nicolas Hulot, le rapport du GIEC, et puis l'été qu'on a passé l'année dernière, quoi, les épisodes de canicule, le lac d'Annecy à sec, les écroulements de montagnes dans le massif du Mont-Blanc. Enfin, je veux dire, là, tous les signaux sont en alerte. Et malgré ça, on a en ce moment une espèce de renouveau des aéroports, à l'heure où on devrait tout faire pour limiter le trafic aérien, qui est une des grosses sources d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution, etc. Et en plus, effectivement, en lien avec cette question du ski et des canons à neige, puisque dans ce qui s'appelle le comité régional du tourisme, où siège une autre élue de notre groupe qui est Florence Serbaille, eh bien, visiblement, parmi les projets structurants du comité régional du tourisme d'Auvergne-Rhône-Alpes, figure le fait de, par exemple, essayer de développer des lignes directes aériennes entre la Chine et Lyon-Saint-Exupéry, pour que les Chinois puissent venir faire du ski chez nous. Ce qui est quand même, alors pour le coup, je n'ai même plus les mots, mais une aberration totale, totale. C'est-à-dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes est en train d'essayer de vendre à la Chine pour qu'ils créent des pistes de ski chez eux, des équipements, des remontées mécaniques, des canons à neige. Elle organise des voyages avec des industriels alpins en Chine.
On en avait parlé, ouais.
Pour cet objectif. Et en même temps, elle favorise le fait que les Chinois prennent l'avion, aillent jusqu'à Lyon-Saint-Exupéry pour ensuite venir faire du ski dans les Alpes. Enfin, je veux dire, là, vraiment, on marche sur la tête totalement. Et puis, on a le même phénomène au niveau de Grenoble, puisque là, le comité régional du tourisme parle du fait de favoriser l'implantation d'EasyJet, donc du low cost, ce qui, d'un point de vue environnemental, mais pour le coup aussi social, est là aussi une aberration, pour que les gens puissent venir plus facilement, effectivement, faire du ski en atterrissant directement à Grenoble. Et dans le même ordre d'idées, on a même des députés de La République En Marche, d'Isère, qui soutiennent le projet de Center Parcs, donc ces bulles tropicales qui seraient implantées sur une zone humide, dans une forêt qui serait du coup rasée pour construire ces bulles chauffées toute l'année. Et ben des élus LREM soutiennent ce projet de Center Parcs, et dans leurs arguments, il y a le fait que ça permettrait le développement de l'aéroport de Grenoble. Enfin, je ne sais pas sur quelle planète vivent ces gens. Donc voilà.
Le Center Parcs relancé au même endroit, à Roibon, il y avait déjà eu une annulation d'ailleurs du tribunal.
Oui, alors c'est
toujours au même endroit.
Ouais, c'est toujours le même projet en fait qui continue à diviser et à faire débat.
Il n'a pas été jeté à la poubelle, quoi.
Il n'est toujours pas à la poubelle. Là, cette tribune des élus de La République En Marche prône le fait d'y investir 100 millions d'euros d'argent public, en vantant donc le développement de l'aéroport de Grenoble, en vantant aussi la création d'emplois. En réalité, par rapport au financement public de ces emplois, ça veut dire que la collectivité prendrait en charge l'équivalent de 5 ans de salaire privé pour une entreprise qui s'appelle Pierre et Vacances, et qui, en plus, une fois de plus, serait extrêmement destructrice, avec des conséquences d'ailleurs aussi du côté de la Drôme, hein, puisque la Fédération départementale de la pêche de la Drôme a été partie civile et a fait des recours au tribunal contre ce projet, parce que la destruction de la zone humide affecterait aussi les cours d'eau de notre côté du département. Voilà, c'est des choses qui sont quand même de plus en plus compliquées, effectivement, à comprendre en termes de raisonnement de la part d'élus de la République qui sont censés défendre l'intérêt général.
Ils s'en rendent pas compte, ou peut-être qu'ils lisent trop Donald Trump. On va terminer cette émission par une série d'annonces, comme c'est un peu votre habitude, Corinne Moral-Darleux, avec une petite pour le local, les jardins nourriciers, après la destruction des zones humides. On reconstruit.
Exactement, c'est-à-dire que voilà.
L'homme est capable de tout. Quoi.
Face à tout ça, il est de plus en plus. J'ai presque envie de dire vital, parce que ça pourrait bien le devenir un jour, relocaliser la production alimentaire, de recréer des zones de biodiversité qui puissent en même temps nourrir les habitants, etc. Et du coup, c'est une des vocations de cette association Les Jardins Nourriciers, qui permet de mettre en culture des terrains qui, pour l'instant, ne sont pas cultivés par leurs propriétaires. Donc de faire de la production maraîchère, agricole, de qualité, en plus de ce qui existe déjà sur le territoire, et en plus de le faire dans une vision coopérative, puisque c'est un système qui repose sur des adhérents bénévoles qui viennent jardiner, qui apprennent en même temps du coup à cultiver et à travailler la terre.
Voilà, il y a des pros pour encadrer. Hein.
Voilà, ils sont encadrés par des jardiniers professionnels
bien.
Sur des principes d'agriculture biologique et de permaculture, et qui en venant travailler au jardin accumulent un certain nombre de points qui ensuite leur permettent de transformer ces points en paniers de légumes finalement leur propre production. Donc les jardins nourriciers là sont tout juste en train de relancer la nouvelle saison. Il y a des constructions de serres, de préparation de la terre, de semis qui vont commencer à se lancer. Ils ont aussi d'autres projets de développement pour mettre en commun des outils, par exemple. Quand on a besoin d'une tronçonneuse, on n'a pas forcément besoin de tous s'acheter notre propre tronçonneuse pour l'utiliser une fois tous les deux ans. Donc ils vont proposer aussi de la mise en commun de matériel, tout un tas de choses, de mise en place aussi de circuits d'approvisionnement sur des engrais naturels, du fumier, etc. Et donc c'est le moment ou jamais pour ceux que ça tente d'adhérer à cette association et de participer à ces travaux. Le site internet c'est lesjardinsnourriciers.com et on est à la recherche de nouveaux adhérents pour participer à cette aventure collective qui par ailleurs prépare aussi peut-être des lendemains qui chantent moins et des moments où on aura besoin effectivement de pouvoir se nourrir localement et de ne pas dépendre de circuits d'approvisionnement mondiaux pour nous alimenter correctement.
Vous avez dit on vous voit bêcher là-bas ?
Oui, on me voit bêcher de temps en temps, le plus souvent possible. Je trouve qu'en plus, c'est des moments qui font vraiment beaucoup de bien, qui permettent de sortir un peu de son cerveau, de reprendre contact avec la terre. En plus, les terrains qui sont cultivés sont des terrains avec des paysages absolument superbes.
En vallée de Quin.
Notamment dans la vallée du Quin, mais aussi à d'autres endroits, puisque c'est un peu dispersé dans le Diwa. Et donc voilà, c'est vraiment des moments qui font du bien, en fait, où on est dehors, au soleil, à plusieurs, les mains dans la terre, ce qui permet toujours de remettre quelques idées en place.
Le train Grenoble-Gap, alors une date pour en parler encore ?
Oui,
c'est
parce que
qui va y avoir des travaux, mais on le ferme, mais on le ferme pas. Il y a les travaux sont décidés. Enfin, encore un micmac.
C'est un feuilleton, effectivement. Alors, malheureusement, j'aimerais bien dire à rebondissement, mais finalement, ça rebondit pas tellement, puisque la balle est toujours dans le camp du gouvernement. qui tarde, qui a annoncé qu'il prendrait une décision justement sur ces travaux nécessaires à la ligne fin mars. Et donc l'idée d'ici fin mars est de se faire entendre et de maintenir un peu la pression, qu'il ne nous oublie pas. Et donc il y a un appel effectivement du collectif de l'Étoile de Veynes, qui est ce collectif dont nous faisons partie, hein, puisque l'Étoile de Veynes, c'est plusieurs lignes de train qui se croisent à Veynes. Donc la ligne qui passe par Dieppe en fait également partie. Et donc on essaye de se filer des coups de main et d'être solidaire des actions des uns et des autres. Et donc là, il s'agit de la portion entre Grenoble et Gap, cette fameuse ligne des Alpes. Et donc il donne rendez-vous le 2 mars à 14h30 au col du Faux, qui est du côté de Monestier de Clermont. Ils appellent tout le monde, notamment les gilets jaunes et les écharpes tricolores des élus, à être présents le plus nombreux possible pour donc sauver cette ligne qui voit quand même passer 1000 personnes par jour et qui pourrait bien fermer d'ici 2021 si les bonnes décisions ne sont pas prises au niveau du gouvernement.
Ah, c'est quand ?
Le 2 mars, à 14h30, au col du Faux.
Comme je n'avais pas noté, peut-être que des auditrices auditeurs non plus. Le 2 mars, et puis l'occasion de rappeler que sur cette ligne, il y a quand même une commune de la Drôme, hein, Luce-la-Croix-Haute.
Donc, tout à fait.
On peut y aller, ne serait-ce que pour ça, si on n'était que chauvin.
Exactement, et puis il faut noter aussi qu'eux sont venus en renfort quand nous en avions besoin.
C'est
Ils
vrai.
Ont été présents à plusieurs mobilisations devant la gare de Die. Et comme nous avons toujours un combat en cours sur le fameux TER 17359, qui a été supprimé en termes de train avec un bus de remplacement, il y a toujours des actions en cours du collectif Gare à nous, collectif DIOA de sauvegarde du train. Et donc il y a eu une rencontre avec la vice-présidente au transport de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des membres du collectif Gare à nous. Et la vice-présidente transport de la région semble indiquer que le train devrait être de retour pour la prochaine grille horaire qui sera mise en place au 31 août 2019. Donc là aussi, il s'agit de maintenir une pression bienveillante pour ne pas se faire oublier dans cette prochaine grille horaire. Mmh.
Pour en être sûr. Et on termine, on revient sur, encore une fois sur l'environnement, quelque chose que vous suivez bien en ce moment, notamment les marches pour le climat.
Oui, alors c'est vrai que sur ces marches pour le climat, tout le monde en ce moment s'interroge un peu parce que bon, marcher c'est bien, mais au bout d'un moment, on a envie de passer à autre chose et d'être peut-être plus dans des actions directes avec impact immédiat et cesser de demander des choses mais de passer à l'action. Donc il y a des réflexions en cours là-dessus, mais là il y a surtout une nouvelle donne qui est en train d'émerger de manière très forte, c'est la jeunesse. Souvent en politique, on se dit mais où sont les jeunes? Que font-ils? Pourquoi ne sont-ils pas avec nous en réunion? Bon, parfois on a quand même de petites idées quand on voit à quoi ressemblent les réunions politiques, que ça ne leur fasse pas très envie. Toujours est-il que là, en fait, dans la foulée d'une jeune Suédoise qui s'appelle Greta Thunberg, qui s'est lancée toute seule au départ dans sa propre grève de l'école, où tous les vendredis, elle séchait l'école pour aller manifester toute seule avec ses panneaux devant un édifice, le Parlement, je crois, suédois. En fait, ça a fait des émules. Ça a fait des émules d'abord en Suède, où du coup, tous les vendredis, depuis des mois maintenant, il y a grève scolaire des jeunes qui réclament de la part du gouvernement suédois de prendre des actions beaucoup plus fortes en matière de climat et de biodiversité, en disant en gros, nous, on ne voit pas pourquoi on irait apprendre des choses à l'école et étudier alors que votre inaction politique condamne notre futur. Et ça a fait des émules, tant et si bien que là, ces dernières semaines, il y a eu des manifestations monstres en Belgique, à Bruxelles, avec plusieurs dizaines de milliers de jeunes lycéens et étudiants, mais aussi dans d'autres pays européens. Et donc, la France s'y met, avec un petit décalage, mais beaucoup de détermination, visiblement. Et donc, il y a eu une première manifestation de plusieurs milliers de jeunes qui étaient assez nombreux devant le ministère de l'écologie la semaine dernière. Et il y a surtout une date importante qui est en train de se mettre en place. C'est la date du 15 mars, avec une grève scolaire partout en France, probablement également à l'échelle internationale, de tous ces jeunes qui se mobilisent avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de détermination, et qui du coup viennent donner un petit coup de jeune à ces mouvements climat et d'énergie qui sont les bienvenus aujourd'hui.
Our house is on fire, disait Greta Thunberg. Bon, c'est bien.
Exactement.
C'est peut-être encore le temps, le moment. Merci Corinne Morel-Darleux. On se retrouve après la prochaine assemblée plénière, cette fois les 28 et 29 mars prochains.
Voilà, et donc là, ce sera une assemblée plénière. Donc, je pourrai vous faire part de mes émotions ressenties et vécues de l'intérieur.
Et elle va être longue. Hein,
elle s'annonce assez longue, effectivement.
Eh bien, merci encore et à la prochaine.
Merci à vous.
Hey, the bird.
L'interview du jour.